France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Jean Edernalier contre François Mitterrand. Au cœur de cette affaire, un livre. Intitulé « L'honneur perdu de François Mitterrand », il est écrit en 1982, mais il ne paraît qu'en 1996. Et entre-temps, il circule sous le manteau et tombe entre les mains de nombreux éditorialistes. Sur sa quatrième de couverture, ces mots saisissants qui exhalent tellement l'amertume et le ressentiment. « J'ai pourri la postérité de François Mitterrand de son vivant. Il n'aura d'autre place dans l'histoire que l'histoire d'une imposture. » La charge est aussi mégalo que violente. Elle est signée Jean Edernalier, l'écrivain polémiste qui durant 30 ans a occupé la scène médiatique. Un drôle de type, dont la présence véhiculait de la tension. Partout où il passait, il y avait de l'électricité dans l'air. Une plume qui portait l'élégance française, certes, un libertaire intéressant, plutôt brillant, mais aussi un maître chanteur sans foi ni loi, un homme à la pensée urgente et aux idées interchangeables. Un caméléon, en somme, tour à tour, parisien, breton, anarchiste, gauchiste ou chiracien, tout y passe. Il se voyait à la tête d'une grande chaîne de télé, ou pourquoi pas ministre. Mais François Mitterrand, qui avait d'autres chats à fouetter, n'a pas levé le petit doigt pour lui, son entourage non plus. Alors, Jean Edernes s'est répandu dans les médias, vociférant sa colère, chevalier du fiel. Ce pourrait être le début d'un conte, c'est une histoire d'agit-prop à la française, l'histoire d'un moment où, aux yeux de beaucoup, Jean Edernalier est devenu Jean Edern le fou allié. Notre invité aujourd'hui, Franz-Olivier Gisbert, qui publie le troisième volume de son histoire intime de la Ve République, chez Gallimard, titré « Tragédie française », où la période Mitterrand est largement relatée. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Fred Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Deauville, dimanche 12 janvier 1997, Hôtel Normandie, 5 étoiles. L'homme qui se réveille à 7h moins le quart descend prendre son petit déjeuner, puis enfile son imperméable et grimpe sur son vélo. Sa vue est déficiente, mais il connaît le chemin par cœur. En quelques minutes, il rejoint le Chiquito, un bar situé près de l'hippodrome où il a l'habitude d'acheter ses cigares. Mais ayant arrêté de fumer depuis 15 jours, il se contente de boire un Viandox et de retourner vers son hôtel. À quoi pense-t-il sur son vélo? À ce déjeuner pris la veille aux vapeurs de Trouville avec ses amis? Ces douzaines d'huîtres étaient fabuleuses. Oh, et puis, ce moment où Tom Hanks est venu lui demander un autographe. Waouh, comme la vie est trépidante en ce début d'année. Et pour cause, son livre « L'honneur perdu » de François Mitterrand s'est tellement bien vendu. Soudain, il prend la rue Victor Hugo et s'engage ensuite dans la rue Jean Mermoz en sens interdit. Ce qui ne lui fait pas peur. Et puis, il est encore tôt, le froid est glacial, la rue est vide. C'est pourtant là, à 7h50, qu'il chute. Quelques minutes plus tard, un employé du casino le découvre, la tête écrasée sur le bitume. Il court prévenir l'hôtel. Immédiatement, le directeur reconnaît l'homme. C'est l'écrivain Jean Edernalier. Il est mort. Sur place, les médecins remarquent des ecchymoses sur le dos des mains, ce qui prouve qu'il était inconscient avant de chuter. Il ne s'est pas protégé. La cause de la mort? D'après certains, une embolie cérébrale, d'après d'autres, un accident vasculaire. Le docteur Saint-Mont ordonne donc une autopsie, tandis que le directeur de l'hôtel monte prévenir les proches de Jean Edernalier, autrement dit son ami Dominique Lacoux et son secrétaire Anthony Palou. Ces derniers se précipitent à la morgue en compagnie du journaliste Carl Zéro, qui devait déjeuner le jour même avec Jean Edern. Mais voilà que le visage de ce dernier a été embaumé, sans même l'aval de la famille. Une procédure pourtant obligatoire. L'autopsie est donc impraticable. Des côtés de l'hôtel, les journalistes transmettent l'info du décès à leur rédaction.
France Inter.
8h30 ce matin au petit jour à Deauville, Jean Edernalier fait du vélo, comme souvent, mais le cœur lâche. Hémorragie cérébrale, l'écrivain chute, les pompiers lui font un massage cardiaque, mais il est trop tard. À 9h, il constate la mort. Jean Edernalier s'éteint à l'âge de 60 ans.
De retour en Normandie, Dominique Lacoux monte dans la suite 198 récupérer le carnet d'adresse de son ami. Or, voilà que le concierge lui indique un homme qui lui a montré sa carte tricolore est déjà passé. sans doute un policier. Dans la chambre, pourtant, il semble que rien n'a bougé. On y trouve l'échiquier du défunt, son appareil Magnilink qui lui permettait de lire, son journal intime et quelques notes laissées sur son lit. Au même moment, le corps est rapatrié vers Paris. De l'hôpital jusqu'au domicile de l'auteur, autrement dit du 29 avenue de la Grande Armée, ce sont 196 km à parcourir, soit environ 2 heures en voiture. Mais étonnamment, parti vers 14h, le convoi n'arrive qu'à 19h30, soit un peu plus de 5 heures plus tard. Sur place, sa famille l'attend, et tous constatent avec effarement que le visage de Jean est comme plâtré. L'ami de toujours, Dominique Lacoux, les rejoint. Dans sa poche, il a la dernière note laissée sur le lit de l'écrivain et qui dit « Ma présence porte sur les nerfs, on me déteste et je ne l'ai pas mérité. » Mais qui est ce « on » qui le déteste ? C'est vrai qu'ils sont nombreux à le détester, et ce n'est pas nouveau. La presse parle de façon récurrente du dernier dérapage de Jean Edernalier. L'homme a toujours défrayé la chronique. Alors, comment le décrire ? Un punk de l'écriture au service de la politique ? Un seigneur de l'outrance qui aime citer le plaisir aristocratique de déplaire, cher à Monterland ? Pourquoi pas ? Mais est-il pour autant un aristo ? Non. Il naît le 1er mars 1936 dans une famille de hobereux bretons. Son père est un Saint-Cyrien résistant, sa mère, la fille d'un industriel alsacien. D'elle, il dit n'avoir reçu aucune marque d'affection, et il la surnomme « le lièvre fardé ». Pourtant, l'enfant est prometteur et collectionne les satisfaits à l'école. Latin, grec, ancien français, rien ne lui échappe. À 15 ans, il rencontre Cocteau, à 20 ans, Jean Paulhan. Et il a alors beaucoup d'argent, s'ennuie passablement et fréquente les salons littéraires à la mode. Son père aurait souhaité qu'il intègre l'armée, mais sa vie l'en empêche, comme il le raconte en 1977 sur France Culture.
Lorsque j'avais perdu mon œil gauche assez jeune, et mon grand-père était général, mon père était général, et mon grand rêve à moi, enfant, était de devenir, moi aussi, général, de porter des décorations, d'avoir des épaulettes, un képi, ça me fascinait. Mon père était commandé un régiment en Tunisie à l'époque, et je rêvais d'être spahi. Et lorsque j'ai appris que je ne pourrais pas devenir militaire parce que je ne voyais pas d'un œil, ça a été pour moi un déchirement épouvantable et je me suis dit « je vais devenir général de l'armée des rêves ».
Et des rêves, il en vendra beaucoup pour nourrir son récit personnel. Concernant son œil, par exemple, il édifiera le mythe d'un accident survenu lors du siège de Budapest quand il était gamin et qu'il vivait là-bas. D'autres sources indiquent que ce handicap est dû, en vérité, à une naissance au forceps. L'enfant serait né souffrant et en colère, ce qui pourrait expliquer bien des choses. Devenu adulte, il fonde avec Philippe Solers la revue Telle Quelle. Et son père s'exclame. Jean Edern a pris la direction d'une petite revue d'avant-garde. C'est le moyen pour lui de se chamailler avec des écrivains plus âgés en attendant une vague vengeresse. Bien vu, le paternel. Parce qu'en effet, elle ne va pas tarder. C'est avec délice que Jean Edern découvre mai 68. Son côté bouillonnant lui plaît. Mais y participe-t-il vraiment ? D'après ses détracteurs, il se contente d'une visite des usines Renault à bord de sa Ferrari, puis une descente chez Fauchon où il s'empare du foie gras pour le donner aux ouvriers grévistes. Il n'empêche. Alors qu'il est déjà l'auteur des aventures d'une jeune fille au seuil, qui a manqué de peu le prix Médicis, lui vient l'idée de profiter de la révolte pour lancer un journal mi-gauchiste mi-anard. Ce sera l'idiot international, comme il l'explique ici sur France Culture.
Si vous voulez, pour moi qui suis un politique autant qu'un écrivain, l'utilisation de la polémique est une utilisation politique, n'est-ce pas ? Pour moi, tous les moyens sont bons. À savoir que je peux aussi bien écrire un tract, que je peux aussi bien écrire un texte économique, un texte de théorie politique pure, ou tout d'un coup faire de la littérature, mais tous ces moyens convergent dans une même voie, c'est-à-dire l'attaque du capitalisme, l'attaque de la bourgeoisie.
Le journal paraît sous l'égide de cette maxime de Jean-François Delharpe « Plus l'oppresseur est vil, plus l'esclave est infâme ». Voilà qui annonce la couleur, bien qu'il faille un peu décoder tout de même. Bon, dès l'année 70, le journal et avec lui Jean Edernes sont poursuivis pour provocation contre la sûreté de l'État, à faire juger devant la 17e chambre correctionnelle de Paris qui statue sur les affaires de presse. Eh bien c'est là, et alors qu'il est défendu par maître Henri Leclerc, qu'il rencontre François Mitterrand. Un personnage dont a priori il se méfie, tant il représente la 4e République. En outre, sa poignée de main lui laisse l'effet, je cite, d'une main d'archevêque. Pour Mitterrand, en revanche, l'occasion est trop belle. Il sent bien qu'être du côté de la jeunesse peut se révéler payant à long terme. En outre, il est indéniable que sa présence en robe d'avocat influence positivement la présidente du tribunal. C'est ainsi que Jean Edernes n'écope que d'un an de prison avec sursis et accepte de revoir François Mitterrand. Dans son journal intime daté de 1973, il s'interroge. Qui est donc cet homme ? Homme de destin ou pur politicien ? Il me laisse une impression partagée, faite d'admiration et d'extrême réserve. Il n'empêche qu'il se voit. Chez Lippe, à la closerie des Lilas, et même dans son château de la Boixière, en Bretagne. À l'issue de cette visite improvisée, durant laquelle Jean Edernes n'a que des coquillettes à proposer au futur président, son voisin le prévient. « Fais attention, Jean Edernes. » Cet homme-là, pas franc du collier. Mais Jean Edernes passe outre. D'autant que François Mitterrand l'aide à décrocher une chronique au Matin de Paris et qu'il rencontre Jacques Attali. Ce dernier lance le comité Information et Vérité. Objectif, nuire à Giscard en remuant les affaires dans la presse, comme le scandale des chasses ou les diamants de Bokassa. Volontiers exécuteur des bas œuvres, Jean Edernes racontera plus tard qu'il n'était pas rare qu'il se rende tôt rue de Bièvre, chez François Mitterrand, pour faire le point et se faire payer en cash. Ce que démentira Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, qui pourrait payer M. Allier puisqu'il est impayable. Peut-être, sauf qu'Allier attend son heure, comme il explique sur France Culture.
C'est une amitié esthétique. J'aime en Mitterrand l'écrivain, j'aime en Mitterrand l'homme. J'ai une infinie tendresse pour François Mitterrand, une infinie admiration pour lui. Pour l'instant, j'attends mon heure. Je suis terriblement optimiste, en fait. Terriblement, terriblement optimiste.
2 ans plus tôt, Mitterrand avait déclaré au Nouvel Obs qu'à ses yeux, Allier se place au premier rang des écrivains de sa génération. Ajoutant toutefois, quand il cessera de parler de lui, lui restera-t-il quelque chose à dire ? À rien ou sûr, en effet. En 77, Allier fonde avec Brice Lalonde une radio pirate nommée Radio Verte, qui émet depuis son appartement de la place des Vosges. Immédiatement, il est poursuivi pour complicité d'infraction à la réglementation sur les émissions radiophoniques. Puis en 1979, voilà qu'il fonde une liste régionale pour défendre les intérêts de la Bretagne et désinguer les compromis.
L'abjection règne. Elle cabache aux mains moites de frousse. Roger Jiquel à la tête de CRS en congé de maladie. Les frères du Hamel, le régime en attend même un troisième pour la Noël. Les petits Jésus de la lèche et honté. Zitrone, ce vieux larbin. Moujotte, ce faux derche revenu de toutes les gauches. Bassi ou Cavada, si nul, si prétentieux ou falsificateur que même une radio africaine, même l'empereur Bokassa, hésiterait à les employer. Tous valets du régime. La basse cour journalistique d'une France domestiquée, valets, oui, qui touche à la fin du mois, sur vos propres impôts, le salaire exorbitant, toute honte but de la collaboration. Notre Bretagne est trop grande pour leur petitesse servile. Oui, votez, nul, basque, alsacien, occitan, flamand, corse.
Et pour séduire les socialistes, il publie un pamphlet féroce contre Giscard, titré « Lettre ouverte au Colin Froid » chez Albert Albin Michel. L'apparition est un scandale, applaudi par la gauche. Alors, Edernes tombeur de président, voilà qui lui sied parfaitement. À l'apparition du livre, son général de père s'exclame « Il faut mettre en prison mon garnement de fils ».
Le docteur Jekyll.
Hello, Dr. Jekyll.
Mon nom est Hyde, Mr. Hyde.
Docteur Jekyll, il avait en lui un monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret n'en pensait pas moins.
Hello, Dr. Jekyll.
Vous dites que je ne suis pas le Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, prenait des notes pour le docteur. Dr. Jekyll.
Hello, Dr. Jekyll.
Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll un jour a compris que c'est ce monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau du Dr. Jekyll.
Aujourd'hui, le parcours sinueux de Jean Edernalier.
France Inter, affaires sensibles.
21 mai, 21 coups de canon pour saluer le 21e président de la République française. À l'évidence, le chiffre 21 porte chance à François Mitterrand. Point culminant de cette journée, donc, la visite au Panthéon. François Mitterrand, une rose à la main, est descendu seul dans la crypte du Panthéon pour se recueillir sur les tombes de Jean Jaurès, le père du socialisme, assassiné en 1914 par un fou, et de Jean Moulin, héros de la Résistance, assassiné 40 ans plus tard par les nazis.
10 jours après son élection, le sacre de Mitterrand au Panthéon met Jean Edernalier mal à l'aise. Le lendemain, dans le Matin de Paris, journal officieux du PS, il lance « Rien de plus terrible qu'un rêve qui se réalise. Au Panthéon, je m'accommodais mal d'être dans le camp des vainqueurs. » En vérité, il trouve tout cela grotesque. Et il veut s'y faire. Ça sent la nouvelle bourgeoisie arrivée au pouvoir, doublée de l'arrogance d'avoir tant attendu. On n'est pas chez Jaurès, on est à la cour de Versailles. Mitterrand prend acte et Alliez s'offusque. Au fait, où sont mes prébendes? Et pourquoi le ministère de la Culture est-il revenu à Jacques Lang? Sous-entendu, pas à moi. Bah, c'est vrai ça. Comment ose-t-on lui faire ça à lui que François Mitterrand, devenu divinité, a qualifié le plus grand écrivain de sa génération et chez qui il allait petit déjeuner? Et le 24 juillet sur Antenne 2, le voilà qui rêve encore d'un ministère.
Alors, si je veux être ministre, oui, bien sûr. J'aimerais bien être ministre, je suis. Mais je crois que le seul ministère qui me plairait serait finalement le ministère de l'imagination. Je n'aurais pas besoin de voiture de cocarde, je n'aurais pas besoin de secrétaire, je n'aurais pas besoin de cabinet, etc. Je pourrais apparaître n'importe quand. Ministère de l'imagination. Je demanderais simplement une chose pour mon ministère, c'est une seule caméra et un verre d'eau.
Mais rien ne vient, et Allié fulmine. Il est même en colère, ce qui est une seconde nature chez lui. Et il se venge, déplorant que Mitterrand célèbre le mariage de Charles et Diana aux côtés de Margaret Thatcher, alors que Bobby Sands, le héros de l'Ira, est mort il y a moins de 3 mois d'une grève de la faim en prison. Et en décembre, il franchit le Rubicon, c'est même la transgression. Il évoque le cancer du président, secret d'État. Claude Perdriel, directeur du Matin, sort de ses gonds et refuse la publication. Alors Allié écrit « Personne au pouvoir ne s'indigne face aux tortures de notre ami le roi du Maroc. Personne ne proteste contre les ventes d'armes ou les essais nucléaires en Polynésie. » Et il accuse « Je ne vois rien dans le programme de la gauche qui menace le système capitaliste. Au contraire, il cherche à se l'approprier. » Puis vient l'affaire de la Pologne. Lorsque le général Jaruzelski instaure l'état de siège et que Claude Cheysson, ministre des Affaires étrangères, déclare que la France n'a pas à intervenir, le voilà qui manifeste au cri de chez son démission, en compagnie de Kouchner, Glucksmann et Costa-Gavras. Le lendemain, Jacques Attali lui téléphone, Mitterrand ne veut plus vous voir. Et le lundi suivant, la sanction tombe, il est viré du Matin de Paris. Sa réponse ? Attali est devenu notre bourgeois gentilhomme plagiaire et dyslexique, lèche-cul qui nous gouverne et exécuteur du président. Et ben ça ne suffit pas. Non. Le 23 avril 82, Bernard Pivot l'invite aux côtés de Daniel Cohn-Bendit et Paul Guth à présenter son nouveau livre, dédié à Mitterrand et Perdriel, pour l'avoir mis au vert. De l'avis de tous, sa prestation est faible. 2 jours plus tard, il dîne à la closerie des Lilas, puis disparaît. Sa femme prévient la police, Rien. Aucune trace de l'écrivain. Hormis sa voiture garée rue d'Assas, près de l'Observatoire, là où Mitterrand avait organisé, ou pas, on ne saura jamais, son propre attentat 23 ans plus tôt. Un clin d'œil, plutôt un pied de nez. Toujours est-il qu'à 16h, un appel anonyme signale l'enlèvement de l'écrivain au nom des brigades révolutionnaires françaises. Les brigades quoi ? Quel est ce groupe totalement inconnu de la police ? Mais on en parle, évidemment.
Deuxième titre. Jean Edernallier a disparu depuis dimanche soir après un dîner en compagnie de confrères, de journalistes dans un restaurant de Montparnasse. L'écrivain français est un personnage de notre République des Lettres. C'est un talent incontesté, une personnalité beaucoup plus controversée en revanche, avec un côté un tantinet mégalo qui a d'abord fait croire à un gag ou à une opération publicitaire. L'écrivain vient en effet de sortir un nouveau livre. Pourtant, après 24 heures d'incertitude, on prend maintenant l'affaire très au sérieux. L'écrivain aurait bien été enlevé ou lui serait arrivé malheur.
Et on s'interroge, n'est-ce pas un coup monté par Jean Edern lui-même ? Dans le matin, l'écrivain Bernard Franck écrit « Il faudrait toujours enlever les écrivains un peu connus qui se mêlent de publier, qu'ils deviennent de braves morts provisoires. » Quant à Bernard Pivot, il lance « Quand Jean Edern s'apercevra que ses geôliers ne connaissent rien à son œuvre, il y a fort à parier qu'il leur fera passer un mauvais quart d'heure. » Et le tout Paris se gausse. Et voilà que l'AFP reçoit un ultimatum des brigades réclamant le renvoi de tous les ministres communistes ainsi que la démission du ministre de l'Intérieur, Gaston Defer. Au bas de la lettre, c'est quelques mots écrits par Jean Edern. « Je vais bien, je suis convenablement traité. » La consternation est générale, pathétique. À la sortie du Conseil des ministres, Pierre Bérégovoy affirme aux journalistes que l'affaire Allier n'a pas été évoquée. Tu parles. Et le dimanche 4 mai, coup de théâtre.
Il est exactement 3h30 ce matin. Marie-Christine Allier, l'épouse de l'écrivain, sort du Quai des Orfèvres. Elle vient de retrouver son mari, mais celui-ci reste au siège de la brigade criminelle de Paris. Il est entendu par le commissaire Jacques Gential, et ce n'est que vers 5h30 que Jean Edernallier rejoindra son domicile de la place des Vosges.
Je ne refuse pas de parler, j'ai prévenu l'AFP de ma libération. Les nécessités de l'enquête m'obligent à me taire pour l'instant.
Pension, la moitié.
Je vous remercie de votre amitié. Et je suis très fatigué. Au revoir.
Dans les faits, Jean Edern est réapparu dans la nuit faisant du stop en robe de chambre. Son premier réflexe est de joindre l'AFP avant même d'appeler sa femme. Il affirme avoir été victime des services secrets de l'Élysée. Et il porte plainte contre X. Dans le quotidien de Paris, Dominique Jamais écrit.
Cher Jean Edern, ils étaient singulièrement mal informés, les bandits contre-révolutionnaires français qui vous ont enlevé l'autre semaine pour vous punir de vos connaissances avec le gouvernement socialo-communiste. Des connivences avec le nouveau pouvoir ? Certes, vous auriez bien voulu en avoir, vous qui avez usé jusqu'à la patience les paillassons de l'Élysée. Seulement voilà, vous étiez tout prêt à vous vendre, mais il n'y avait pas d'acheteur. Cela dit, quelle merveille ce rapt, si l'on vous avait cru. Vous disparaissez, réapparaissez, lavez de vos souillures. Permettez-moi de rire, vous qui avez accommodé il y a 2 ans celui que vous appeliez le Colin Froid. Prenez garde de n'être plus aujourd'hui qu'un merlan frit.
Bouffon de la République, quoi. L'affaire débouche tout de même sur une procédure judiciaire confiée au juge d'instruction Grelier, qui s'empresse de signer une ordonnance de non-lieu expliquant que si les investigations entreprises n'ont pas infirmé la réalité de l'enlèvement, elles n'ont pas permis d'en identifier les auteurs. En français normal, ça veut dire qu'Edern n'a peut-être été enlevé par personne, sinon par lui-même. En juillet, l'appartement de Régis Debray, alors conseiller de Mitterrand et ennemi juré d'Allier, est soufflé par une explosion. Aucune victime n'est à déplorer, mais l'acte est signé « Brigade révolutionnaire ». Un an plus tard, à apostrophe, en plein direct, Allier affirme être le commanditaire de l'attentat.
Je lui ai dit « t'as qu'à faire un attentat ». Et je lui ai suggéré, comme mon vieil ami Régis Debray. Alors, une première fois, je suis réveillé la nuit dans un orage.
Mais vous êtes sérieux ou pas, là ? Vous êtes sérieux ou pas ?
Je suis absolument sérieux et je revendique absolument cet attentat que j'ai fait. Pour une fois que vous avez un terroriste ici, puisqu'on n'en arrête jamais, je vous donne mes mains pour mettre les menottes. Je l'ai fait absolument et je ne demande pas mieux d'aller en prison. Il faut emprisonner Voltaire.
Vous préparez un nouveau livre, je crois.
La prison, c'est très bien. La prison, c'est la santé.
Il enchaîne, déclarant « Je propose pire, comment enlever un enfant au président de la République ?» Ici, c'est directement Mazarine qui est visé. Et c'est une autre histoire. Là, c'est un acte grave qui le pousse à s'enfuir en Suisse, où il prépare son retour comme un joueur d'échecs. Qu'il est d'ailleurs. Car il revient et assure que son aveu télévisé n'était qu'une fable d'écrivain. Ouais, mais ses plaisanteries ne font plus rire. Désormais, persona non grata. Il reçoit une lettre du fisc lui réclamant 331 000 francs. Sa réponse ne se fait pas attendre. Il écrit au trésorier et balance tout. L'existence de Mazarine, élevée, je cite, sur les deniers du contribuable à qui on a offert un château, celui de Souzy-la-Briche, somptueusement restauré aux frais de l'État. Mais aussi, l'existence du comité Information et Vérité, où il a sévi en tant que mercenaire idéologique. En bon maître chanteur, il précise en post-scriptum adresser un double de sa lettre à François Mitterrand. Et les impôts l'oublient. Mais pas l'Élysée qui voit rouge. D'autant que la rumeur enfle d'un prochain livre au titre douteux, Tonton et Mazarine. À l'intérieur, des phrases explosives, comme « Elle a déjà un nom de rue, la gamine, mais elle, personne ne la connaît. » Oh, je ne reproche pas à Mitterrand d'avoir un enfant naturel, mais de ne pas nous la montrer. Qu'attend-il donc pour promener Mazarine sur le perron de l'Élysée devant tous ses courtisans agenouillés ? Un Mitterrand n'en deviendrait pas roi pour autant, mais un honnête homme. Bien. Pour l'Élysée, désormais c'est clair. Allié est dangereux. Jusqu'où peut-il aller ? Révéler le passé vichyssois du président ? Son amitié durable avec Bousquet, l'organisateur de la rafle du Veldiv ? Son cancer ? 6 mois plus tard, il s'exprime dans le journal d'extrême droite National Hebdo et dit « Mitterrand est un traître qui mérite 12 balles dans la peau ». Si l'on en croit Thierry Pister, l'ancien conseiller de Pierre Mauroy, Premier ministre, l'Élysée sombre dans la paranoïa.
C'est la seule fois, pendant les 3 ans que j'ai passé à Matignon, où Mauroy m'a demandé de faire une note officielle à l'Élysée en me disant « Tu te rends pas compte, c'est terrible, c'est un secret d'État. Si Mitterrand pense que tu apprends que tu as rencontré Jean Ederne, il va penser qu'on est derrière le complot. Il faut absolument que tu te couvres, que tu nous couvres en rendant compte. Voilà, c'était plus important que les nationalisations, la régionalisation. Les grandes. Là-dessus, il n'y avait pas besoin de faire nécessairement. Mais ça c'était le tabou absolu.
Et ordre est donné de faire pression. C'est ainsi que 17 éditeurs reviennent sur leur décision de publier le livre qui se nomme désormais « L'honneur perdu de François Mitterrand ». Alors, s'inspirant de ce que fit jadis Rousseau avec son contrat social, Allié enflamme son texte devant l'Élysée, habillé en bourgeois de Calais, pour dénoncer la censure. Un happening qui fait de ce texte fantôme un best-seller. Jamais on n'a autant parlé d'un livre avant sa non-publication. L'Élysée décide alors de placer l'écrivain sur écoute. Lui, mais aussi ses proches, ses barres préférées et tous ceux qui pourraient nuire à la sûreté de l'État, des journalistes, des avocats et même des comédiennes. Sur chaque fiche, ce même tampon, source secrète. Bientôt, pas moins de 80 policiers sont affectés aux surveillances sous la direction de Paul Baril et de Christian Proutot, le créateur de la cellule antiterroriste. Il ne peut pas faire un pas sans que je sache où il est, dit François Mitterrand à Roland Dumas. Au total, sur les 5000 écoutes répertoriées, 654 concernent Allié. Un record qui n'est pas pour lui déplaire, car ses écoutes lui offrent ce statut de martyr qui l'assure qu'enfin, on l'écoute. Il devient même probablement l'homme le plus écouté de France. Et il conclut. Au XVIIIe siècle, on m'aurait embastillé, au XIXe, envoyé en exil, au XXe, on me surveille. Mais bientôt, c'est l'imprimerie de l'idiot international qui est saccagée et ses recettes bloquées. Durant l'hiver, le domicile de Jean Edernalier est incendié. L'Élysée veut le détruire, il en est sûr. Et puis, il y a cette phrase, lâchée par Jacques Sauvageot, alors administrateur du Monde, à son ex-femme. « S'il publie, on le retrouvera dans un fossé. » Vertige. Le 7 mars 1984, le journal Libération écrit.
Affirmant qu'il fait l'objet de menaces de mort à cause d'un pamphlet en préparation sur la vie intime de François Mitterrand, Jean Edernalier a annoncé qu'il entrait en semi-clandestinité. Les innombrables menaces de mort par téléphone et voix postale ne l'effraient guère, mais nuisent à la quiétude morale de son épouse. Opération promotion réussie, car s'il s'est refusé à donner lecture des bonnes feuilles, il a su aiguiser l'appétit en détaillant les têtes de chapitre. La cagoule, l'observatoire, la Francisque et la vie sexuelle du président sont questionnés. Au final, un livre ignoble, commente un proche qui a eu le privilège de le lire et qui a tenté de convaincre l'écrivain de renoncer à sa publication en vain. Mitterrand est un fabuleux personnage de roman, répète Allier. Plus le romancier que je suis s'en passionne, plus le citoyen que je suis s'en affole.
Et Dernalier ne peut pas publier son livre, qu'à cela tienne. Il continue de guerroyer dans son journal, qu'il tire à 100 000 exemplaires et qu'il qualifie de canard enchaîné haut de gamme. Dans ses colonnes, les plumes de Frédéric Becbédé, Renaud, Philippe Solers, Thierry Ardisson, Alain Benoît ou Édouard Limonoff. Un attelage baroque qui dynamite le clivage gauche-droite et qui raille le pouvoir. Une réussite éditoriale minée par les procès en cascade. Georges Kegeman, Jacques Lang, mais surtout Bernard Tapie attaquent. L'homme d'affaires Matamore n'a pas apprécié d'être qualifié de voyou en col blanc. En 89, c'est l'éditeur Christian Bourgois qui saisit la justice. Face à la fatwa de Khomeini, il décide d'ajourner la publication des versets sataniques de Salman Rushdie. Mais Allier, lui, en profite pour les publier dans son journal, allant lui-même déposer un exemplaire à l'ambassade d'Iran, malgré les menaces, et bien sûr, devant les caméras. Criblé de dettes, l'idiot international meurt en 1994, lorsqu'émerge l'idée d'un rapprochement rouge-brun. Son titre, vers un front national. Autant dire un sabordage, une mise à mort médiatique et sociale. Dans l'événement du jeudi, Ederne confesse « Je suis un être ignoblement hybride. J'ai un pied dans le showbiz, l'autre dans la poussière de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, vais-je discuter du quatrième chant de l'Énéide avec un intello de News Magazine ?» Pourtant, il accepte d'animer le Jean Ederne's Club sur Paris 1ère, puis à l'ouest d'Ederne sur M6. Entouré de ses invités, il vocifère en jetant des livres par-dessus son épaule. Une revanche pathétique, disent certains, tel Jérôme Garcin, qui le traite d'animateur à oreillettes. Mais son émission est un succès et sa rage immuable.
Voilà le livre de Mitterrand. Nous allons le noyer dans l'eau de son régime, l'eau de Vichy, pour en terminer. Et alors, exorciser. Et alors, de toute façon, ça fait beaucoup de bien pour les hépatites de la mémoire, nos foies malades. Comme disait notre ami
Le livre flotte, mais c'est comme Mitterrand, le livre surnage.
Avec ses beautés.
Le livre surnage, regardez-le.
De ce point de vue, Jean Ederne nous manque. Son humour. Il s'amuse, car il le sait. La mort de Mitterrand approche, et avec elle la démitterrandisation. Le 10 novembre 1994, Paris Match rend public l'existence de Mazarine. L'heure est aux aveux. Deux mois plus tôt, au micro de Jean-Pierre Elkabbach, François Mitterrand expliquait sa présence à Vichy, précisant qu'il ne savait rien des crimes contre les Juifs. Fin des batailles. En tout cas, pour ultime clin d'œil, Ederne pastiche ses funérailles.
Par une après-midi maussade. Le ciel est gris, le ciel est bas, le ciel est bleu. Nous voici devant le Panthéon où Jean Ederne Allier vient réserver, mais oui, la place qu'il croit qu'il occupera au Panthéon, puisque c'est au Panthéon que dorment les grands hommes auxquels la patrie veut témoigner de sa reconnaissance.
À mon Jean Ederne regretté.
Enfin débarrassé de lui, quel bonheur! Pour en finir enfin avec Jean Ederne Allier, foutons-le dans l'endroit le plus sinistre de France, le Panthéon.
Le Panthéon, oui. C'est-à-dire que même après la mort du président, ce dernier le fascine encore. Preuve en est, la publication en 96 de L'honneur perdu de François Mitterrand aux belles lettres, suivie des puissances du mal chez Rocher, où il continue de désinguer la Mitterrandie. Est-ce encore à lui, François Mitterrand, qu'il pense lorsqu'il chute ce matin de janvier 97 à Deauville? Ou à cette phrase peut-être du poète Shelley qui disait « Je ne suis pas de ceux qu'on aime, je suis de ceux dont on se souvient ». Jean Ederne laissera surtout la trace de la rancœur et la blessure des passions tristes.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Affaires sensibles aujourd'hui, Jean Edernalier, notre invité Franz-Olivier Gisbert, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, politique, éditorialiste, vous êtes surtout l'auteur de cette trilogie intitulée « Histoire intime de la Ve République » où vous réunissez souvenirs de la vie politique et souvenirs personnels, qui parfois se confondent. Et alors, suivant un fil conducteur, le va-et-vient entre nos perceptions d'alors et notre regard d'aujourd'hui, on y reviendra. Et tout cela est chez Gallimard. Alors, concernant Edernalier, qui est le sujet de notre récit d'aujourd'hui, on a compris que si l'honneur perdu de François Mitterrand a été écrit en 1982, il n'est sorti qu'en 1996, et qu'entre deux, il a circulé sous le manteau, et que vous l'avez certainement eu entre les mains, François-Olivier Gisbert.
Oui, j'ai tellement eu entre les mains qu'un jour, il est venu me voir en me disant « Je suis embêté, mon livre, j'en ai plus, je ne sais plus où il est, j'en ai encore un exemplaire, parce que visiblement, peut-être c'était des amis, peut-être pas, je ne sais pas, en tout cas, visiblement, son livre avait disparu. » Il n'avait plus qu'un seul exemplaire, et ce que j'ai fait, moi j'ai fait des photocopies, bien sûr, et j'en ai gardé un dans un coffre. Et quelques années plus tard, il revient me voir et il me dit « Est-ce que tu as gardé le bouquin ?» Ben, je dis oui, c'était dans un coffre avec d'autres petites choses comme ça. Je me souviens des bandes magnétiques de Mitterrand où il me disait que dans le débat en 1988 avec Chirac, il avait menti. Donc c'était des trucs qu'on garde, vous voyez. Parce que... Ah non, mais Mitterrand tenait à ce que ce soit enregistré, puisque je me souviens, il me dit « Est-ce que le magnéto marche ? Je pouvais le vérifier. » Et il y avait ça, et donc je gardais son manuscrit. À l'époque, il était un peu pourchassé, persécuté. Il en rajoutait toujours, donc on ne savait jamais si c'était du lard ou du cochon. Avec Jean Dernelier, franchement, c'était toujours très étrange.
Mais dans le bouquin, qu'est-ce que vous découvrez ?
Oh, je savais ça.
Ouais.
Je le savais. Je suis un peu gêné. Ouais. Alors, je trouve très drôle, évidemment, la dédicace à Michel Rocard comme convenu. Ouais. C'était le grand ennemi Mitterrand. Parce qu'il y avait de l'humour toujours chez Jean Edernalier.
Ça provoque,
c'était,
ouais.
C'était très drôle. Si vous voulez, Jean Edernalier, il avait tout pour être un très bon écrivain.
Ouais.
Et d'ailleurs, il a commencé très très bien. Vous pensez, parmi ses premiers livres, Le premier qui dort réveille l'autre, c'est formidable. C'est un livre sur l'enfance, de frères, enfin c'est une histoire absolument magnifique. C'est très court et très beau, et c'est écrit à l'eau, c'est superbe. Mais il est toujours allé vers la polémique, vers... il a besoin d'exister médiatiquement.
Voilà, il a besoin d'exister.
Atroce, les médias. Oui, mais c'est les médias qui l'ont tué d'une certaine manière, parce qu'il avait trop besoin des médias. Il voulait qu'on parle de lui, vous voyez, et pas de ses livres. Donc il y avait une espèce de frénésie comme ça, et ce qui faisait qu'on doutait toujours quand il venait vous-même vous raconter quelque chose. On ne savait pas. Quoi. Est-ce que c'était vrai qu'on lui avait piqué ses bouquins, les manuscrits ? Est-ce que c'est vrai que c'était... Parce que finalement, sa thèse, c'était que c'était les services secrets. Moi, je ne savais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je lui ai gardé ce manuscrit.
Ce qui est certain aussi, plusieurs témoignages concordent, c'est qu'à l'Élysée, je ne sais pas si c'était la panique. Enfin, il y avait un vrai problème par rapport à ce livre.
Je ne suis pas sûr.
Franchement,
je crois que c'est très exagéré. Ouais. Mitterrand, on voit très bien sous Mitterrand, il y a beaucoup de suspicions, il y a une espèce de réseau d'espionnage, enfin qui se met en route de contre-espionnage, je sais pas comment appeler ça, avec notamment les écoutes téléphoniques.
Et oui.
Bon. Tout le monde est écouté, hein, et ça continue. Alors je sais, il y a beaucoup de grands journalistes, enfin entre guillemets, qui ont pleurniché parce qu'ils étaient écoutés. Moi aussi, je suis sur la liste. Hein. Je vous signale, j'en ai jamais fait état, je suis sur la liste. Et... il écoutait, oui, ses services écoutaient tout le monde. Est-ce que Mitterrand s'en repaissait ? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que Mitterrand s'intéressait beaucoup aux histoires concernant une actrice, par exemple. Il aimait bien savoir qui était avec qui, et tout ça l'intéressait certainement. Après, moi, je n'ai pas le sentiment du tout, alors franchement, qu'il y ait eu une panique autour de ça. Pour une raison très simple, c'est que Mitterrand, d'abord, il ne s'en est pas toujours caché. Bon, alors, c'est vrai que moi... Peut-être parce que je respectais certaines règles, malgré les apparences, parce que je considérais souvent comme un journaliste un peu salaud, qui ne respecte pas les règles, mais enfin quand même, il y avait un minimum. Oui, je sais bien l'image que je peux avoir. Mais en même temps, un jour, je me souviens très bien, il ouvre le coffre de la voiture, il y a des jouets, et il me dit « ça, c'est pour ma fille ». Évidemment, ça...
Ah bah oui, ça interpelle.
Ça interpelle, et puis la machine se met en route, et puis après on commence à poser des questions. Et c'est là que j'ai appris qu'il avait une fille. Bon. voyez, donc je suis très vite, ça.
Mais vous avez pas dit, vous avez senti, j'ai une fille, mais surtout, faut pas le dire, parce que...
Ah non.
Si vous le dites, c'est que prendre le risque.
Mitterrand n'était pas comme ça. Mitterrand dit pas, faut pas le dire. Ouais. Non. Après, c'est vous qui prenez les risques, évidemment. Ouais. Si j'avais fait la grande enquête avec le grand... Bon, il m'aurait plus jamais parlé. Remarquez, il m'a plus parlé quand même pendant...
Bah, pour d'autres raisons.
Oui, mais parce que je faisais des papiers pas sympas sur sa politique économique qui était débile, dans les années... Même avant, d'ailleurs, pendant 10 ans, il m'a pas parlé. Puis après, voilà, c'est revenu comme avant. Parce que Mitterrand était comme ça, il était très sensible. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'il y avait une panique parce que, comment dire, c'était Jean Dernalier. C'était pas une enquête.
Oui.
C'était un farfelu, comment dire, une sorte d'histrion, vous voyez, parce que c'est l'image qu'il avait. Qui avait du talent, attention, moi je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent qu'il n'a pas de talent. Je pense qu'il avait beaucoup, beaucoup de talent. Hélas, il est un peu gâché. Et moi, c'est quelqu'un avec qui j'avais des rapports plus que compliqués, hein, puisque il avait ce côté souvent un peu maître-chanteur.
Ouais. Hein,
parce que, oui. Voilà, moi quand j'étais directeur de la rédaction du Figaro, je me souviens, il voulait une chronique hebdomadaire, enfin genre François Mauriac, parce qu'il se prenait pas pour n'importe qui, et j'ai pas voulu. Et puis c'est monté, et puis voilà, il m'a dit, de toute façon, à l'époque j'avais un roman, La Souille, qui était bien placé pour le concours, et ben tu auras pas le concours. Il a fait une campagne absolument hallucinante et hontée, avec des fax partout, et moi j'étais comme un roc. D'ailleurs, mes amis, souvent, et très bien intentionnés, je pense à Jean-Marie Rouart, quelqu'un que j'aimais beaucoup, me disait, mais quand même, tu pourrais quand même être un peu... Mais non, je fermais la porte. Mais je gardais quand même, malgré tout ça, malgré cette attitude, un mélange d'affection et de... C'est quelqu'un, malgré tout ce que je vous ai dit, moi, je l'aimais. Et d'ailleurs, vous savez, que c'est bizarre, j'ai fait de la télé à cause de lui.
Ah non, mais
c'est très étrange. Il avait décidé que je serais génial à la télé, entre guillemets, parce qu'il exagérait tout, évidemment, donc quand il disait ça. Et il avait convaincu le patron de Paris Première à l'époque, l'émission, il officiait, il avait prévu, il lui avait dit, mais il faut lui faire une émission, etc. Si tant est que quand Jean Dernalier est mort, bon, soi-disant un assassinat, mais enfin bon...
Oui.
Il avait une vie très agitée...
Jusqu'à sa mort, il faut se méfier. Quoi.
Il avait une vie très agitée, il est tombé de vélo, enfin bon, bref, il est mort un peu jeune, c'est vrai, mais bon, quand même, voilà, quand on regarde sa vie, c'est pas absolument absurde, hein, bon. Mais Cyril Dupeloup, le patron, qui était assez génial d'ailleurs, de Paris Première, qui était quelqu'un de très original, un polytechnicien, vous voyez, avec plein d'idées, il m'a proposé de le remplacer. Et j'ai accepté et j'ai travaillé avec son principal collaborateur pendant des années, quelqu'un que j'adorais, formidable, Omar Fouati. Vous voyez, qui était...
Oui.
Voilà, donc j'ai gardé... Donc, quand j'en parle là, j'en dis pas du mal. J'essaie juste d'être honnête. C'est-à-dire, je pense qu'il a gâché un talent réel pour...
Par besoin de reconnaissance.
Un besoin de reconnaissance, qu'on parle de lui. Alors, il a fait un journal, l'Idiot International, qui était pas mauvais quand on y pense, parce qu'il y avait les meilleures plumes de l'époque. À
droite,
à gauche.
Le canard enchaîné haut de gamme, disait-il.
Oui,
c'est
payé.
Un canard enchaîné haut de gamme.
Oui, mais ça,
c'est lui qui le disait,
bien sûr. Le canard enchaîné, c'est quand même très très bien.
Donc, bah oui.
Pas non plus... Non, mais c'était pour rabaisser le canard enchaîné, qui était devenu son concurrent. Bon, il n'a pas du tout fait de mal au canard enchaîné. Mais c'était parce que d'abord, c'était un journal très littéraire, très amusant, les signatures qu'il avait. Jean Dutour, Michel Déon, évidemment, tous ses copains maoïstes, parce qu'il y avait du fric maoïste au départ. Hein.
Dernière chose sur lui, le faux attentat qu'il fomente lui-même, un attentat contre lui-même, ça rappelle l'Observatoire.
C'est
un pied de nez à l'Observatoire de François Mitterrand, ça? Ça ressemble
non.
quand même.
Non, mais non, il voulait qu'on parle de lui.
Ouais, okay.
Et d'ailleurs, c'était atroce, parce que moi, je sais pourquoi il a été démasqué tout de suite, vous savez quoi?
Non, dites.
Ben, je sais, c'est quelqu'un de très important dans la police qui me l'a dit. C'est-à-dire qu'on a regardé tout de suite l'état de son caleçon et de ses chaussettes, qui étaient propres. Et dans les histoires d'enlèvement, le caleçon et les chaussettes ne sont jamais propres.
France Inter. Affaires sensibles.
François-Olivier Gisbert, troisième tome de vos souvenirs, de vos mémoires, dont vous êtes toujours le narrateur, le chroniqueur de la vie politique en trois volets. Donc, premier volet, premier livre, période de Gaulle. Second livre, La Belle Époque, période Pompidou-Giscard. Et puis, à partir du troisième, qui vient de sortir, on a de Mitterrand à aujourd'hui. Pourquoi ce découpage ? Est-ce qu'il correspond à quelque chose de précis ?
Tout à fait, c'est comme une pièce de théâtre. Vous avez le redressement, enfin, j'appelle ça le sursaut, c'est de Gaulle,
oui,
1958.
Bien sûr, bien sûr.
Il arrive à la faveur d'une grosse rouerie, il fait croire qu'il va maintenir l'Algérie française dans le giron. Et bien entendu, il est pour l'indépendance. Dès qu'il arrive, il fait croire aux généraux, d'où d'ailleurs tous les problèmes qu'il y a ensuite, aux généraux qui va faire le contraire. Mais évidemment, il fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire l'indépendance. Et là, c'est le sursaut, parce que, notamment économique, incroyable, incroyable ce qui se passe. Enfin, la France repart. C'est pour ça, quand on dit qu'on est par terre, vous savez, il y a toujours des réserves en France. Et De Gaulle l'a prouvé, parce que je pense qu'elle était plus bas que terre quand, en 1958. Elle était plus bas qu'elle est encore aujourd'hui. Et ensuite, vous avez, à partir de 1969, l'arrivée, je dirais, des dauphins qui sont en même temps les assassins. C'est-à-dire, les deux ont appris à travailler auprès du général, mais enfin, ils l'ont tué. Ils n'ont vraiment pas été sympas lors de la campagne du référendum de 1969 sur la régionalisation, vous vous souvenez. Ils ont dit, ils se sont arrangés, disons, pour faire comprendre qu'ils étaient là pour après. Et c'est ce que j'appelle la belle époque, c'est-à-dire ça continue, malgré un traumatisme comme on en a peu connu en dehors de la grande crise financière de 2007-2008, exactement, les deux chocs pétroliers, 1973 et 1979, qui ont massacré le septennat de Giscard. Mais la France s'est bien débrouillée, c'est-à-dire tout de suite, elle a foncé sur le nucléaire, les décisions étaient prises, ils ont été extrêmement rapides, c'est incroyable, comme la réactivité était forte, ce qui fait que quand... Giscard donne les clés du pouvoir avec Barre à Mitterrand et à son équipe, les comptes publics sont pas mal.
Et alors, à partir de Mitterrand et jusqu'à aujourd'hui, pour vous, c'est le déclin ?
Non, c'est les chiffres. Excuse-moi, désolé, parce que moi je suis très con. Je regarde les chiffres et vraiment quand on voit les chiffres, c'est affolant, quoi. Ouais. Donc la désindustrialisation, elle commence. Vous avez raison, sous Giscard. Mais il y a des causes, réelles. C'est le choc pétrolier qui est un truc de fou, quoi, qui est toute l'économie se casse la gueule. Donc, après ça continue sous Mitterrand, alors que le choc pétrolier a été digéré. Pourquoi ? Parce que on accable les entreprises de taxes, de réglementations compliquées, etc. Puis ça continue. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la vision de Mitterrand et de son équipe, parce que Mitterrand, il vaut mieux que ça quand même, mais c'est quand même, on va raser gratis, le Père Noël, on va donner. Et évidemment, à l'arrivée, avec l'idée idiote que plus on va dépenser, plus l'économie va repartir et plus il y aura de croissance, c'est le contraire qui se passe, évidemment. La croissance s'effondre, rien ne va plus, et voilà. Mais après, la droite, la gauche, tout le monde continue. Alors là, on est dans le déclin.
Ouais.
Moi, en même temps, je suis très joyeux, parce qu'au fond, ce livre, je me suis bien amusé en l'écrivant, même si c'est sur le déclin, parce que je pense qu'il y a un fond optimiste en moi, même si je suis très pessimiste pour le court terme, mais il y a un fond optimiste qui me dit, mais à un moment donné, tout le monde va se réveiller, puis on va repartir, parce que la France, elle est trop belle pour mourir, hein.
Bon, ben on se donne rendez-vous alors. Merci François-Olivier Gisbert. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Jean Edernalier, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Baptiste Collion.